Patrick Scheider, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes musicien, créateur de spectacles sur la nature en particulier, mais vous êtes aussi l'auteur du livre paru aux éditions Belin récemment, intitulé « Pour une pensée écologique positive ». Alors sur la couverture, on voit une image de grands arbres photographiés d'en bas, on les regarde du bas vers le haut, et ça nous situe donc au pied de l'arbre, mais avec le regard tourné vers le ciel. Et on voit le soleil qui brille derrière la cime de ces arbres. Et en fait, je trouve que cette photo dit beaucoup de choses sur notre posture face à la nature, Patrick Scheider.
Oui, effectivement, je pense que peut-être on parle trop souvent d'écologie punitive, parce que c'est un moyen de caricaturer une pensée. Et moi, je crois au contraire que l'écologie, elle est positive. Ce qui est négatif, c'est de ne pas savoir de quoi on parle, où on se situe, même dans l'espace ou dans le temps. Et ce qui est positif, c'est de savoir se situer dans une tradition de réflexion. Et l'écologie remonte à très très loin, on peut remonter à l'Antiquité, et certainement avant, et replacer tout ça dans un contexte. Ça permet de mieux vivre le temps présent, et j'irais aussi peut-être de mieux imaginer le monde d'après, car pour imaginer le monde d'après, mieux vaut connaître le monde d'avant.
Ce livre a été écrit assez rapidement. Vous aviez commencé avant la crise du coronavirus, mais vous avez continué pendant ce temps-là.
Oui, c'est ça. Voilà, je l'ai écrit en 6 mois environ. J'avais beaucoup lu avant, j'ai beaucoup lu pendant. Et c'était un plaisir parce qu'au fond, je me rends compte que des personnages dont on entend parler quand on est lycéen, par exemple, je ne sais pas, je pense à Descartes, je pense à La Fontaine, je pense à Georges Sand, on nous les présente sous un aspect purement littéraire et artistique. Et j'ai découvert qu'ils avaient aussi un versant écologique qui était très très important. Et pour certains même, ils ont été des activistes.
En fait, c'est une longue histoire. Hein, et donc, vous avez tissé un fil qui part d'il y a très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Mais dans l'introduction, vous écrivez que l'humain vit comme il s'imagine. Alors, est-ce que ça marque en fait le fossé qui existe entre la réalité de l'extinction de masse, par exemple, qui se profile, la réalité du changement climatique, et notre désir à nous de ne pas nous en rendre compte, c'est-à-dire feindre d'ignorer les conséquences du changement climatique dont nous sommes responsables, Patrick Scheider?
Oui, je pense que l'aveuglement est vraiment commun à l'espèce humaine. On parlait d'histoire tout à l'heure, mais Descartes, par exemple, il se trouve que par hasard, actuellement, j'habite pas loin du village où il est né, qui s'appelle Descartes, en hommage à ce célèbre philosophe. Alors, Descartes, actuellement, c'est un petit bourg au fin fond de la Touraine. Je pense qu'à l'époque de Descartes, c'était encore plus un petit bourg. Eh bien, Descartes, alors qu'il était probablement et forcément entouré d'animaux, de chevaux, de chats, de chiens, je dirais un peu comme tout le monde, de bœufs pour faire les travaux d'agriculture, eh bien, il pense que les animaux, finalement, sont des sous-êtres. Il appelle ça un animal-machine. Et il leur dénie toute sensibilité. Alors que je pense, s'il marchait sur la patte du chien, il serait vite rendu compte que le chien réagissait. Et donc, il en déduit que ce sont des êtres qui n'ont pas de sensibilité et que, par exemple, l'hirondelle, qui revient tous les ans au même moment, quasiment jour pour jour, dit-il, au même endroit pour faire son nid toujours, eh bien, il en déduit que qu'elle marche comme une horloge. Voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'on nous dit nous-mêmes cartésiens. Je vois pas pourquoi, parce que La Fontaine, une vingtaine d'années après, réfute totalement les théories de Descartes. Et je crois qu'on est autant La Fontainien que cartésien. Et en tout cas, La Fontaine est quand même bien plus célèbre dans la population que Descartes. Et La Fontaine dit c'est faux. Certes, les animaux ont une conscience différente de la nôtre, mais ils en ont une qui nous est précieuse. Et parfois, ils sont même bien plus doués sur certains points que nous, les humains. Donc, modérons tout cela. Donc, il y a thèse et antithèse. Donc, on voit que c'est déjà un débat pour moi sur la condition animale, par exemple. Mais La Fontaine s'est aussi préoccupé d'écologie parce qu'il a critiqué notamment la déforestation que Louis XIV faisait en masse, des forêts tout autour de Versailles, en Normandie, surtout la forêt de Lyons, pour peupler d'arbres le parc de Versailles. Et il écrit des fables aussi là-dessus, où il critique carrément ce genre de politique.
Donc vous reprenez l'histoire, quand même l'histoire de l'homme face à la nature. On a l'impression à vous lire qu'il y a deux pensées contiguës qui cheminent parallèlement. L'une qui tendrait à domestiquer la nature, à imposer la volonté humaine, et l'autre à la prendre en compte pour essayer de discuter.
Oui, oui, tout à fait. Voilà, je pense que les peuples autochtones, qu'on dit autochtones d'Amazonie, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'en expliquer. Je veux dire, ils discutent. Il se sert de la nature comme d'un interlocuteur. Hein. C'est un peu ce que disent des philosophes comme Bruno Latour. La nature a un moyen de nous parler, qui n'est pas un langage articulé avec des mots, mais qui est, par exemple, le langage du rapport de force. On peut imaginer que la pandémie de la Covid, eh bien, c'est effectivement une façon de parler à l'être humain. Ce n'est pas une punition divine, c'est juste qu'à un certain moment, il y a un dérèglement, la nature se manifeste automatiquement. Et ensuite, libre à l'humain de savoir entendre cette voix, de réagir ou de ne pas réagir.
Alors si on continue à remonter dans l'histoire, est-ce que l'époque du néolithique et puis les humains de cette époque, avec ensuite l'invention de l'agriculture, est-ce que le néolithique est le père de tous les vices, Patrick Schneider?
Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est très confondant, j'ai essayé de l'aborder dans le livre, c'est que toutes ces questions qu'on se pose, forcément on y a répondu parce qu'on est toujours là. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont trouvé les réponses à tout ça, parce que s'ils étaient trompés perpétuellement, il y a longtemps que l'espèce humaine aurait disparu. Déjà, je tire cette première conséquence qui n'est pas intellectuelle, mais purement factuelle. Après, je me suis posé la question de savoir comment vivaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. On le sait, grosso modo, il suffit de voir comment la forêt amazonienne a été devenue un immense jardin pour les populations autochtones, qui l'ont dénaturalisé depuis longtemps, mais qui vivent très bien en symbiose, en osmose, etc. C'était une période d'abondance, semble-t-il, à un certain moment. Le climat y était favorable. Et puis, l'humain a connu une glaciation, la dernière, et le climat fait que les végétaux se raréfient, cette période d'abondance prend fin. J'y étais pas, mais si, mes ancêtres y étaient. Je me souviens pas de tout. Mais c'est là que, bien sûr, s'offre la nécessité absolue de chasser du gros gibier pour pouvoir continuer à survivre. Et alors, on ne sait pas trop, il y a 10 000 ans, qu'est-ce qui a fait que notre espèce humaine a décidé de cesser d'être nomade, de devenir sédentaire, de faire de l'agriculture. Mais en tout cas, on l'a fait. Donc c'est très intéressant parce qu'au lieu de poser toujours l'écologie en termes de « mais moi je pense ci et moi je pense ça », on voit aussi que c'est surtout parfois une espèce humaine sans moyen d'ailleurs vraiment de communication d'un endroit à l'autre qui prend collectivement une décision. Alors même si cette décision met 5 000 ou 6 000 ans à s'implanter partout, elle s'implante et les faits sont là.
Alors dans votre livre, Patrick Schneider, vous avez aussi interviewé 4 personnes qui ont d'autres spécialités. Hein, Benjamin Stora sur la colonisation, Francis Hallé sur les forêts, Alain Bougrain-Dubourg sur l'élevage et Boris Cyrulnik sur l'homme et le pouvoir face à la nature. Alors pour Boris Cyrulnik, la glaciation a donné le pouvoir aux hommes parce qu'ils sont devenus chasseurs. Les animaux étaient plus costauds, il fallait plus de violence pour les attraper, donc on a découlé une héroïsation de l'homme. Mais quand même, il vous répond aujourd'hui, je suis optimiste parce qu'on court à la catastrophe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la rupture entraîne inexorablement l'évolution, le changement positif, Patrick Schneider?
Moi, j'ai 61 ans et quand la façon dont j'étais élevé faisait croire que ça serait toujours comme ça, que le monde irait toujours comme ce qu'on faisait maintenant, parce que ce qu'on faisait maintenant, dans les années 70, c'était le meilleur des mondes. On a quand même été éduqués là-dedans. Donc ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'était la mise en exergue d'une sorte de monde fixe. On avait trouvé la bonne formule, et il y aurait de l'évolution sans cesse, et puis il y aurait du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. C'était aussi un monde où il y avait une certaine promesse qui, certes, n'était pas spirituelle, mais qui était très pragmatique. On disait, toi, tu auras plus de vacances que tes parents, tu auras une plus grande maison, tu auras une plus grande voiture. J'ai pas dit que c'était bien, hein. Mais on nous disait ça. Il y avait une promesse, en fait, de la société. Et ce qui m'afflige actuellement, c'est qu'il n'y a aucune promesse. Voilà. Que ce soit les économistes, les anti-écolos ou les écolos, tout le monde dit, de toute façon, le but, c'est de survivre. Voilà. Une promesse qui se restreint à la survie, je trouve ça très très anxiogène. On ne peut pas rester comme ça. Je crois que l'écologie, elle doit s'engager à faire des promesses. Ces promesses, bien évidemment, doivent être positives. Car aimerions-nous le gâteau qui achète le pâtissier d'à côté si on nous promet qu'il va être mauvais? Non, on ne va pas l'acheter. Donc l'écologie doit montrer ses bons côtés, car il y en a énormément. Je pense qu'elle doit montrer aussi des côtés que des gens célèbres comme Sand, comme Vinci, comme La Fontaine, que j'évoquais tout à l'heure, et bien d'autres, ont su déjà trouver dans le vivant, exalter des valeurs du vivant qui ont une antériorité. Tout mon travail, ça a été de coudre une filiation entre ces temps reculés et maintenant, pour dire vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire annuler ce sentiment de solitude, ou du moins le restreindre, et se rendre plus fort. Je pense beaucoup aux jeunes générations, ceux qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont l'impression que toute la misère du monde leur tombe dessus et qu'en 10 ans, ils doivent faire ce que leurs aînés se sont bien dispensés de faire. C'est injuste. Je pense que si on leur donne des outils pour montrer qu'ils ne sont pas les premiers et que donc ils ne sont pas seuls, et ça change diamétralement tout. Ça ne devient plus une question d'opinion, ça devient une question de culture. Et L'écologie rentrera dans la société par le biais culturel, à mon sens, autant que par le biais politique. Il faudra l'enseigner à l'école, je dirais ça de la maternelle, si je peux dire, jusqu'à Sciences Po. Et puis aussi, on doit sentir qu'il y a une filiation d'esprit culturel, que ça fait partie de notre culture.
L'écologie ne peut être que positive en réalité.
Je pense que, on va dire, elle est partout. Mais actuellement, je me méfie beaucoup de termes qu'on emploie à tort et à travers. Par exemple, puisque je connais bien Boris Cyrulnik, il est le premier à dire qu'on met son terme résilience à toutes les sauces. Si bien qu'à la fin, si tout est résilient, rien n'est résilient. Voilà. Donc, l'écologie à toutes les sauces, j'y crois pas non plus. Voilà. Il y a une prise de conscience qui doit être à la fois politique, économique et culturelle. Donc, moi, je défends le volet, on va dire, plus culturel là-dedans, qui, à mon sens, manquait cruellement. En disant, c'est pas seulement une façon de penser qui est héritée, je sais pas, de l'anarchisme, admettons. Ça remonte pas seulement à David Thoreau dans les années 1850, ça remonte pas non plus seulement à George Sand, ça va beaucoup plus loin. Donc, élargissons notre point de vue et voyons les choses avec une perspective. La Renaissance a imaginé quelque chose de magnifique qui est de pouvoir rendre des perspectives. La chose proche paraît proche, la chose éloignée paraît éloignée. Et bien, cette illusion d'optique qui en même temps traduit la réalité, on doit aussi l'acquérir en écologie. L'écologie doit avoir une perspective comme tout sujet qu'on doit traiter sérieusement. Voilà ce que j'ai voulu affirmer dans un premier temps.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci.